à Conflans. Alors, je vais lire Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, au nom de Jésus. La Bible dit: Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Psaume chapitre 103, versets 1 à 9. La Bible dit de David: Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. C'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Amen. Alors, pendant quelques minutes, nous allons nous entretenir sur un thème: la grâce à l'action de grâce. Je voulais dire de la grâce à l'action de grâce. La grâce à l'action de grâce. Nous parlons souvent de la grâce, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la grâce? La grâce, c'est même le fondement des évangiles ou bien de l'évangile. Quand on parle de l'évangile, on parle de la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est la manifestation de cet amour inconditionnel de Dieu. La Bible dit dans Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La grâce de Dieu, c'est la manifestation de l'amour que Dieu a déjà pour l'humanité, que Dieu a pour le monde, car Dieu lui-même est amour. Et la manière de manifester son amour qui est inconditionnel auprès de ses enfants, auprès de ses créatures, il utilise la grâce qui, elle aussi, est inconditionnel. Inconditionnel dans le sens que la grâce ne dépend pas de celui qui la reçoit. On ne fait rien pour mériter la grâce de Dieu. Qu'est-ce que je dis? On ne peut rien faire pour mériter la grâce de Dieu parce que personne ne peut mériter la grâce de Dieu. Pourquoi manifester son amour inconditionnel par la grâce? Parce que de nature, la grâce est inconditionnelle. Alors la grâce, c'est quoi? La grâce, par définition, c'est cette faveur des dieux, cette faveur imméritée. Et je suis tenté de dire imméritable. Donc, il n'y a pas moyen de mériter cette faveur. Il n'y a rien qu'on peut faire pour mériter la faveur de Dieu. C'est une grâce qui est imméritée, mais aussi imméritable dans toute sa splendeur. On ne peut rien faire pour mériter la grâce des dieux. La grâce dépend de celui qui la donne. C'est Dieu qui nous a donné, qui nous fait grâce, qui nous fait cette faveur, qui détermine et qui définit qui la reçoit et quand il la reçoit. La grâce exclut par sa nature toutes sortes de mérites. Si on dit qu'on est tout ce qu'on est par la grâce des dieux, ça veut dire qu'il n'y a rien qu'on a fait pour être ce qu'on est. Si on dit qu'on a tout ce qu'on a par la grâce des dieux, ça veut dire que ce n'est pas ce que nous avons fait qui nous a donné ce que nous avons, bien qui nous a amené à mériter la grâce des dieux. La grâce est basée sur Dieu lui-même. La grâce en soi n'a rien à voir avec nos actes. Et ici, j'aimerais le dire avant d'aller loin. Dieu nous pardonne par la grâce, pas parce que nous avons confessé. La confession nous donne accès à ce que Dieu nous a donné par la grâce. Pour dire, Dieu nous l'a donné par la grâce. Si nous ne les confessons pas, nous ne les recevrons pas ce qu'il nous a déjà donné par la grâce. Tout ce que Dieu fait pour nous, il le fait pour nous par la grâce. Tout ce que Dieu nous donne, il nous donne par la grâce. Ce que nous faisons de notre part, c'est juste pour recevoir ce que Dieu nous a déjà donné par la grâce. La Bible dit dans Jean 3,16 que nous avons récité ensemble que Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, Dieu a déjà donné par la grâce. Nous avons juste besoin de recevoir ce que Dieu a déjà donné par la grâce. Parce que Dieu, tout ce qu'il fait pour nous, il le fait par la grâce. La grâce n'a rien à voir avec celui qui la reçoit. La grâce dépend de celui qui la donne. Car la grâce est un don de Dieu, une manifestation de son amour avec nous, envers nous. Et c'est ça même la base de l'évangile. Quand on parle de l'évangile, on parle de la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. La bonne nouvelle de l'amour inconditionnel de Dieu. Beaucoup de choses que nous vivons, on n'est pas dire tout ce que nous vivons dans le Seigneur, nous les vivons par la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous maintient, c'est la grâce de Dieu qui nous donne tout ce que nous avons, c'est la grâce de Dieu qui nous amène à faire tout ce que nous pouvons faire, c'est la grâce de Dieu qui nous donne tout ce que nous pouvons avoir. Quelqu'un a dit, dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude, c'est une grâce de Dieu. Parce qu'il y a de ceux qui dorment et ne se réveillent pas. Si tu dors et tu te réveilles, ce n'est pas parce que tu es habitué à le faire. Peut-être que tu as 54 ans aujourd'hui, ça veut dire que chaque jour, tu t'es endormi et tu t'es réveillé. Et pendant 54 ans, tu peux te dire, c'est une habitude, je suis habitué à le faire. Je le fais facilement parce que tu ne fournis aucun effort. Mais c'est une grâce de Dieu parce qu'à un certain moment, tu dormiras peut-être et tu ne pourras pas te réveiller. Parce que c'est arrivé à des gens autour de nous que nous connaissons. Dormir et se réveiller, c'est la grâce de Dieu. Être en mesure de manger, c'est la grâce de Dieu. Il y a de ceux-là qui n'ont même pas d'appétit, qui sont dans les lits d'hôpitaux parce qu'ils ne peuvent pas manger. Et ce sont des petites choses que nous faisons facilement. Et nous pensons que nous les faisons parce que nous sommes habitués, que nous sommes capables de le faire. Mais tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, nous l'avons par la grâce de Dieu. Les enfants que nous avons, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous les donne. Cet enfant que nous venons de présenter au Seigneur, c'est Dieu qui nous l'a donné, je le dis. C'est un don, un cadeau de Dieu. Ce n'est pas ce que nous faisons qui nous donne les enfants. Et vous savez ce que vous faites pour les avoir. Mais ce n'est pas ce que vous faites qui vous les donne. C'est Dieu qui les donne. Parce qu'il y a des gens qui font ce que vous faites, mais qui ne peuvent pas les avoir. C'est la grâce de Dieu. Et même élever, voir ces enfants grandir. Je suis rentré ici et Nathalie m'a dit, ton fils n'est plus un bébé. Moi-même, des fois, quand je le regarde, je dis, mais où est passé le temps? Même les voir grandir, devenir ce qu'ils sont en train de devenir, c'est la grâce de Dieu. Et nous venons de prier pour Ethan parce que nous prions que cette grâce l'amène à choisir Dieu. À un certain moment, s'il choisit Dieu, c'est encore la grâce de Dieu. Tout ce que nous vivons, c'est la grâce. Et c'est rien que la grâce de Dieu. Cette grâce qui est la manifestation de l'amour de Dieu pour nous. Et quand j'ai dit la manifestation de l'amour de Dieu pour nous, des fois, elle ne ressemble pas à ça. Il y a des situations que nous traversons dans la vie, des situations qui nous font mal, mais qui sont aussi porteurs de la grâce de Dieu. Quelqu'un disait hier, il dit, personne ne peut dire qu'il t'aime plus que Dieu t'aime. Et si Dieu permet certaines choses dans ta vie, donc il sait que dans ce qu'il permet, il y a sa grâce qui va se manifester. Il y a quelques jours, un pasteur que je connais personnellement a perdu son épouse, le pasteur Marcelo Tounassi. Une perte qui nous a fait mal. J'ai eu mal ces jours-là. J'ai passé une mauvaise journée. Et hier, pendant le recueillement, il y a un pasteur qui prêchait et dit, personne dans cette salle ne peut prétendre avoir aimé la sœur Blanche plus que Dieu. Peut-être que nous l'avons aimé, mais personne ne peut prétendre l'avoir aimé plus que Dieu. Un peu pour dire, même dans ce que nous ne comprenons pas ici, il y a l'amour de Dieu qui se manifeste pour elle. Même si son départ nous fait mal, mais pour elle, Dieu manifeste de l'amour. Parce qu'au fait, tout ce que Dieu fait pour nous est porteur de son amour. Si Dieu permet, si c'est Dieu qui le fait, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il est en train de faire pour notre bien. Et le pasteur dira, écoutez, nous sommes en train de pleurer pour le vide qu'elle laisse, mais je suis sûr qu'elle est dans la joie auprès de son maître, qu'elle a servi toujours. Parce que dans tout ce que Dieu fait pour nous, il le fait par sa grâce, pour nous amener à vivre ce qui est bon et ce qui est meilleur pour nous. Cet amour de Dieu qui est exprimé par la grâce. se manifeste des fois par la bonté, la providence, la protection des dieux. C'est Dieu qui prend soin de nous. C'est lui qui pourvoit à nos besoins. Nous n'avons pas ce que nous avons parce que nous travaillons mieux que les autres. Nous ne gagnons pas nos vies mieux que nous les gagnons parce que nous travaillons plus que les autres. C'est Dieu qui nous donne même la force de travailler et de gagner ce que nous gagnons. Dans Deutéronome chapitre 8, versets 16 et 17, la Bible dit: Garde-toi de te dire en ton cœur, c'est ma force et mon travail qui m'a aider à gagner la richesse. Il dit, lorsque tu auras beaucoup de richesses, lorsque tu auras beaucoup de choses, garde ton cœur. Ne te dis pas, c'est ma force, c'est mon travail, le travail de mes mains qui m'a donné. Il dit, parce que c'est Dieu qui te donnera la force, même de faire ces richesses-là. C'est tout part de Dieu. Je peux travailler, mais c'est Dieu qui pourvoit. Je fais ce que je fais, mais c'est Dieu qui agit. Donc n'oublions pas que tout ce que nous avons, c'est par la grâce de Dieu. Du reste, la Bible dit dans Lamentations chapitre 3, versets 22 à 23, ce qui suit. Les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ce qui me surprend, c'est que c'est dans les livres de Lamentations qu'on dit que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Dans le livre des Lamentations, on s'attendrait peut-être à quelqu'un qui dit, mais Seigneur, où est ta bonté? Mais la Bible dit dans ce livre des Lamentations que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées et ne sont pas à leur terme. Et se renouvellent chaque matin. Un peu pour dire, la bonté de Dieu n'est pas pour hier. La bonté de Dieu, c'est pour chaque aujourd'hui. Chaque jour qui s'appelle aujourd'hui, il y a la bonté de Dieu qui est manifeste dans nos vies, même si nous ne le voyons pas. Même dans un livre appelé Lamentation, il y a des sujets de voir la bonté de Dieu. Même dans des situations qui peuvent nous amener à nous lamenter, à nous plaindre devant Dieu, nous avons la possibilité de voir la bonté de Dieu, de voir la grâce de Dieu. Parce que dans tout ce que nous vivons, dans tout ce que nous traversons, il y a la grâce de Dieu qui est en l'œuvre dans nos vies. Nous ne voyons pas tout, nous ne comprenons pas tout, mais Dieu est à l'œuvre, même dans des choses qui nous font mal. C'est ainsi que la Bible dit dans Philippiens chapitre 4, verset 6, ce qui suit. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien. Ce n'est pas à quelqu'un qui n'a pas de raisons de s'inquiéter qu'on dit ne t'inquiète pas. Et moi, ce qui me surprend, il dit de rien. Écoute, rien du tout. Vraiment rien. On n'a même pas besoin de nous inquiéter, juste un peu. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Parce que même dans des situations qui nous inquiètent, il y a la grâce de Dieu qui est à l'œuvre. Mais il dit, au contraire, lorsque vous avez raison de vous inquiéter, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Dans Jacques chapitre 5, verset 13, la Bible dit, si quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Vous avez des raisons de souffrance, d'inquiétude. Vous êtes dans la souffrance, des situations qui vous font mal. La Bible dit, priez. Et Dieu ne dit pas priez juste pour des effets thérapeutiques. Il dit priez parce qu'il sait ce qu'il va faire quand vous priez. Dieu ne nous demande pas de prier juste parce qu'il veut entendre nos voix. Dieu nous demande de prier pour que nous puissions faire appel à ce que lui nous a déjà donné par la grâce. Je le dis, tout ce que Dieu fait, il le fait par la grâce. Par la prière, nous saisissons ce que Dieu a déjà rendu disponible par sa grâce. Alors il dit, vous êtes dans la souffrance, priez. Même quand ça fait mal, pleurez, mais après avoir pleuré, priez. Quand ça fait mal, vous pouvez vous lamenter. Il y a un livre qui s'appelle Lamentation dans la Bible, mais après Lamentation, priez. Parce que Dieu, quand nous prions, non seulement il entend nos prières, mais il répond à nos prières. La Bible dit, lui qui écoute les prières, tous les peuples viendront à lui. Il écoute les prières, il entend et il répond à nos prières. Quelqu'un est dans la souffrance, il prie. Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. Quand il y a la souffrance, prions. Quand il y a la joie, chantons. Parce que le Seigneur écoute les deux. Et dans Psaume chapitre 30, versets 11 à 12, La Bible dit, tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as sang de la joie. Il dit, il y avait lamentation quelque part. Il y avait des douleurs quelque part. Mais Dieu, toi, tu as changé mes douleurs, tu as changé mes lamentations en cri de joie. Et si je vais parler à quelqu'un qui traverse des moments de lamentation, des moments de difficulté, des moments de tristesse, des moments de pleurs. Écoutez, Dieu peut le changer au point que tu pourras chanter comme le psalmiste, tu as changé mes lamentations en cri de joie. Parce que Dieu, quand il l'a fait, ça reste dans le passé. Il dit, tu l'as fait. Des fois, quand nous traversons ces moments de lamentation, nous ne savons même pas voir comment Dieu agirait. Il dit, mais Dieu passerait par où pour changer cette situation? On voit les réalités qu'on traverse, on se dit, mais Dieu va commencer par quoi pour changer ma situation? Mais lorsque Dieu agit, la Bible dit, il fait ceux qui reçoivent les œuvres de Dieu, ils sont comme ceux qui sont dans un rêve. C'est dans Psaume 125 et 126, la Bible dit, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui faisaient un rêve. On se disait, est-ce vrai ce que je vis? Parce que je suis habitué aux moments difficiles, je suis habitué aux souffrances, j'ai traversé des moments durs, mais est-ce vrai ce que je suis en train de vivre? Je suis comme dans un rêve. Et alors que Dieu a délivré Joseph de la prison, la Bible dit, il lui a donné deux enfants, le premier Éphraïm et le second Manassé. Éphraïm qui veut dire, Dieu m'a fait oublier les souffrances de mon passé. Quand on traverse des moments de souffrance, on n'essaie même pas comprendre comment on peut oublier ces choses. Quand lorsque Dieu te fait traverser ces moments, il t'amène de l'autre côté de la souffrance, tu regardes en arrière, tu te dis, moi j'ai vécu là-bas. Moi aussi j'ai vécu dans ces choses. Parce qu'il te fait oublier, il enlève tout. Lorsque l'Éternel nous délivre, il sait changer nos souffrances en cris de joie. Il s'est transformé nos lamentations en allégresse. Il y avait lamentation, mais il a tout changé. Il y avait souffrance, mais il a tout changé. Et la bonne nouvelle, c'est que ce que Dieu fait ne s'arrête pas qu'ici. Il y a des choses que Dieu va faire pour nous ici et demain nous aurons encore du mal. Tu as mal aux têtes aujourd'hui, Dieu prie. Dieu, mal à la tête, tu n'as pas plusieurs têtes. Tu as mal à la tête aujourd'hui, tu pries, Dieu t'est guéri. Tu célèbres le Seigneur, mais demain peut-être tu pourras avoir mal au ventre. Mais la Bible dit qu'au final, il essuiera les larmes. C'est dans Apocalypse chapitre 21, verset 4, que la Bible dit, il essuiera toutes les larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus de deuil, ni cri, il n'y aura plus de douleur, car les premières choses auront disparu. Notre espérance en Christ est que Dieu va nous aider dans nos situations sur la terre. Il va nous aider à traverser des moments difficiles. Il va transformer certaines réalités que nous traversons. Mais au final, il va changer tout. Nous vivrons avec lui éternellement dans un monde où il n'y a plus de douleur. Il n'y a plus de mal, il n'y a plus de deuil, il n'y a plus de mort, il n'y a plus de peine. Écoutez, sur la terre, nous rencontrerons des moments difficiles, des temps difficiles, mais dans les Seigneurs, nous avons cette espérance de ces mondes où il n'y aura ni douleur, ni pleurs, ni larmes. Mais le contraire est aussi vrai. De ceux qui ne seront pas avec le Seigneur, ils seront dans la douleur, dans les larmes, les pleurs éternels. Et ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, écoute, tu n'as pas besoin d'aller là-bas. Il a tout donné pour que tu viennes vers lui et que tu vives éternellement dans ce monde où il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de péché. Et c'est ça la vérité. Et c'est ça la vérité. Il changera nos pleurs, il changera nos douleurs en cris de joie. Malades, nous pouvons être aujourd'hui. Nous rencontrerons des situations qui vont nous surprendre peut-être et nous faire mal. Mais nous avons l'assurance que Dieu est avec nous. Et qu'il pourvoit, et qu'il combat pour nous. Il nous donne la victoire. C'est ainsi que la Bible dit, je le louerai toujours, parce qu'il a changé mes cris, des lamentations à cris de joie. Et moi, je le louerai toujours. Louer Dieu veut dire, je parlerai de ses hauts faits. Maintenant, je traverse des moments difficiles, mais je sais qu'il fera des choses qui vont m'amener à le louer, à le célébrer. Je le louerai encore, je le louerai toujours, car je suis bénéficiaire de la grâce de Dieu. C'est tout le monde qui vit la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est donnée à tous. C'est pourquoi la Bible, c'est ainsi que la Bible dit dans Psaume 150, verset 6, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. La Bible ne dit pas tous ceux qui veulent, mais tous ceux qui respirent, parce que même le fait de respirer, c'est la grâce de Dieu. Le fait d'être en mesure de respirer comme tu le fais en ce jour, c'est la grâce de Dieu. Et parce que c'est Dieu qui l'a fait, alors la réaction, c'est de le louer. Louer Dieu, je l'ai dit, c'est parler de ses hauts faits, parler de ce que Dieu a fait. Louer Dieu, c'est le remercier. Louer Dieu, c'est reconnaître sa grâce, c'est reconnaître tout ce que Dieu a accompli pour nous. La louange regarde aux actions de Dieu, aux hauts faits de Dieu, aux choses que Dieu a déjà accomplies pour nous. Et Dieu que nous servons, le Dieu que nous prions, il fait toujours des grandes choses. Il guérit, il nous guérit de toutes nos maladies. Il prend soin de nous. Il combat pour nous des combats que nous connaissons et des combats que nous ne connaissons pas. Il nous donne la victoire. C'est le Dieu qui nous protège. C'est le Dieu qui pourvoit à nos besoins. C'est le Dieu qui nous donne tout le nécessaire pour notre vie. C'est lui qui prend soin de nos enfants quand nous ne sommes pas là. Parce que même quand nous sommes là, nous ne sommes pas capables de prendre soin d'eux. C'est lui qui prend soin de nos vies dans tout ce que nous faisons. Il agit toujours. Dieu est en train de faire des grandes choses dans nos vies. Et parce que Dieu est en train de faire, la louange nous amène à les louer pour ce qu'il est en train de faire. Et ici, je veux dire quoi? La louange, c'est pour ceux-là qui sont reconnaissants de ce que Dieu a fait. Qui peuvent dire, même ce que je suis en train de vivre ici, c'est Dieu qui l'a fait. La louange, c'est pour ces personnes qui savent identifier la main de Dieu à l'œuvre dans leur vie. Ils se disent, je me réveille, les choses ne marchent pas, mais je suis en train de marcher, alors je vais louer Dieu. Je me suis réveillé, je n'ai pas tout ce que je veux, mais j'ai quand même le souffle de vie, alors je peux louer le Seigneur. La louange nous pousse à parler de ce que Dieu a fait. Nos besoins nous poussent à nous focaliser à ce que nous pensons que Dieu n'a pas encore fait. C'est pourquoi il dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, mais aussi avec des actions de grâce. L'action de grâce t'amène à voir ce qu'il a fait. Les besoins t'amènent à te focaliser que sur ce qu'il n'a pas encore fait. Le problème, c'est lorsque nous regardons seulement ce que Dieu n'a pas encore fait. C'est là que l'inquiétude vient et demeure et prend place. C'est pourquoi Paul lui dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. J'ai passé quelques semaines ou quelques mois un peu compliqués, personnellement. Quand je suis allé voir mon médecin peut-être deux, trois fois dans les 2 semaines passées. Et mon médecin qui connaît ce que j'ai fait, il m'a répété ce qu'il m'avait dit il y a quelques mois. Il me dit, mais pasteur, c'est toi qui prêches l'espérance. Pourquoi tu as de l'inquiétude? Parce que j'avais des crises de panique. C'est vrai qu'il y a des situations qui pèsent sur moi. Mais il m'amène à regarder à ce que Dieu fait. Et non me focaliser que sur ce que Dieu n'a pas encore fait, selon moi. L'inquiétude, c'est quand tu regardes à ce que tu t'es dit, Dieu n'a pas encore fait ça. J'ai peut-être besoin d'être guéri, j'ai peut-être besoin d'avoir une famille stable, mais Dieu ne l'a pas encore fait. Mais tu ne regardais pas à ce qu'il a déjà fait. Écoutez, la foi pour ce que Dieu va faire est cachée dans la reconnaissance de ce que Dieu a déjà fait. Si tu ne reconnais pas ce que Dieu a déjà fait, tu auras du mal à croire à ce qu'il va faire demain. Et le diable, lui, il nous amène toujours à regarder à ce qu'il n'a pas encore fait, à ce qui ne va pas. Tu as raison. Je n'aime pas entendre ce que tu dis, mais c'est vrai. J'ai discuté avec Hugo. Je lui ai dit tout ce que mon médecin m'avait recommandé. Et Hugo, il me dit, et pour l'inquiétude, tu vas faire quoi? J'ai dit, toi aussi. Lâchez-moi. Je n'ai pas le droit de m'inquiéter. Mais c'est peut-être Dieu qui était en train de parler au travers de toutes ces personnes pour dire, c'est bien, tu reconnais que tu traverses des moments difficiles, mais il y a un Dieu. Il y a un Dieu. C'est pourquoi il dit, ne vous inquiétez de rien. La louange regarde à ce que Dieu fait. L'inquiétude se focalise à ce que Dieu n'a pas encore fait. Ce sont les deux choix que nous avons. Tu t'inquiètes ou tu loues Dieu? Qu'est-ce que tu vas faire? Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas t'inquiéter ou tu vas louer Dieu? Et la question que je vais vous poser à vous tous, a-t-il accompli quelque chose pour vous? A-t-il fait quelque chose pour vous? S'il a fait quelque chose, alors vous avez des raisons et des très bonnes raisons de le louer et de le célébrer. Alors que la louange regarde à ce que Dieu fait, l'adoration regarde à ce que Dieu est. La louange parle des hauts faits des dieux, l'adoration parle de ce que la nature des dieux. On adore Dieu pour qui il est, on le loue pour ce qu'il fait. C'est pourquoi pour la louange, il dit que tous ceux qui respirent louent. Mais pour l'adoration, il dit, le Père cherche les vrais adorateurs. Pourquoi? Parce que pour l'adoration, il faut qu'il y ait cette relation. S'il est Père, donc tu es fils et fille. L'adoration, c'est pour ceux qui connaissent Dieu. Tu ne vas pas le louer, l'adorer pour qui il est si tu ne le connais pas. Tu ne vas pas l'adorer pour qui il est si tu n'as pas cette intimité avec lui. Dans Jean chapitre 4, verset 23, c'est là qu'il dit, il dit, le Père, il est en recherche des adorateurs qui vont l'adorer en vérité et en esprit. Parce que les adorateurs, ils adorent le Père. Mais avant ça, il leur a dit, il dit, écoutez, vous, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais nous, nous adorons celui que nous connaissons. Un peu pour dire, ce n'est pas possible de dire ce qu'il est alors que vous ne le connaissez pas. Pour dire ce que Dieu est, il faut avoir cette intimité avec lui, cette relation d'intimité avec lui. La louange parle de ce qu'il fait, l'adoration parle de ce que Dieu fait, de ce que Dieu est, alors que les deux sont connectés. Parce que tout ce que Dieu fait est connecté à tout ce qu'il est. Dieu ne fera jamais rien qui va contredire ce qu'il est. C'est de sa nature qu'il agit. On dit que c'est un Dieu omnipotent parce qu'il connaît tout. On dit omniscient, c'est parce qu'il connaît tout. On dit qu'il est omnipotent parce qu'il peut tout. Tout ce qu'il est dans la nature, dans sa nature, définit et détermine ce qu'il fait. On dit que c'est un Dieu qui guérit parce qu'il a cette capacité de le faire. Dieu ne peut rien faire qui contredit ce qu'il est. Donc la louange est connectée à l'adoration. Mais si nous, nous ne reconnaissons pas ce que Dieu a fait, alors nous ne serons pas en mesure de le louer. Nous allons rester dans l'inquiétude, l'action des grâces, de la grâce à l'action de grâce. Je viens de nous montrer combien la grâce, c'est tout ce que Dieu fait pour nous. Mais c'est quoi l'action des grâces? On définit l'action des grâces comme étant cette attitude de reconnaissance envers Dieu. Alors que nous reconnaissons que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons vient de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Notre réaction à cette grâce doit être nos actions de grâce. Donc l'action de grâce, c'est notre réaction à la grâce. Lorsque tu reconnais que tout ce que tu es en train de vivre, c'est la grâce de Dieu, ta réaction à ce que Dieu a fait serait une vie des actions de grâce. Dans l'Ancien Testament, les actions de grâce ne se limitaient pas seulement aux paroles et aux mots, c'était accompagné des offrandes et des sacrifices. C'est ainsi qu'on appelait ça action de grâce. Je reconnais que c'est Dieu qui a fait, alors je lui rends les remerciements. Donc, quand tu sais que toute ta vie dépend de la grâce de Dieu, alors ton style de vie devrait être un style de vie d'action des grâces au Seigneur, à ce Dieu qui ne cesse de te donner la grâce. Et la Bible dit que toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut, du Père des lumières, sur lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Est-ce que tu as reçu la grâce de Dieu? Alors, tu es appelé à vivre une vie d'action des grâces. Lorsque tu comprends la grâce de Dieu, ta réaction doit être l'action des grâces. L'action des grâces, c'est pour ceux qui connaissent, qui savent ce qu'ils ont, ce qu'ils peuvent. C'est par la grâce de Dieu. L'action des grâces veut tout simplement dire reconnaître les excellentes grâces de Dieu dans nos vies. Et ici, l'action des grâces devient une attitude. Ce n'est pas seulement le dimanche quand je viens, quand j'élève mes mains, quand je chante, mais mon attitude tous les jours, comment je vis ma vie, cela va montrer ma reconnaissance envers le Dieu qui a fait de moi ce que je suis. Si je reconnais que ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu, alors l'orgueil ne pourra pas m'envahir. Parce que je me dirai, je ne suis pas ce que je suis parce que je le méritais. Je ne peux pas, je n'ai pas ce que j'ai parce que je l'ai mérité. Alors mon attitude sera l'attitude de quelqu'un qui reconnaît que ce que je suis, je le dois à quelqu'un d'autre. Je le dois à Dieu. Alors l'orgueil n'aura pas sa place parce que je comprends que tout ce que j'ai, je le dois de Dieu. Et c'est là que la vie et l'attitude d'action des grâces vient. Les gens peuvent te dire ce qu'ils pensent que tu es. Ils peuvent t'acclamer. Mais toi, quand tu reçois ces acclamations, tu dis non, non, c'est Dieu. C'est Dieu qui les mérite. Les gens peuvent t'élever, les gens peuvent te vanter et dire ce qu'ils veulent. Mais toi, parce que tu reconnais, tu dis non, mais c'est Dieu. Il y a une parole qui me surprend, qui me fait peur dans la Bible. C'est quand Dieu parle à Saül, Dieu vient il vient de se débarrasser de Saül. Et il a introduit un nouveau jeune homme qui s'appelle David. Et Dieu dit à Saül, il dit, lorsque tu étais encore petit à tes propres yeux, n'étais-je pas élevé? Comme pour dire, le problème, c'est lorsque tu deviens grand à tes propres yeux. Lorsque tu te penses important à tes propres yeux. Lorsque tu étais petit à tes propres yeux, n'étais-je pas élevé? Lorsque tu te voyais comme rien, n'étais-je pas élevé? Et c'est là que David a appris. Il a dit, moi, Dieu m'a tiré de derrière le troupeau de mon père. Alors, devant Dieu, je resterai petit. Même si devant les hommes, devant la nation d'Israël, je serai roi. Mais devant Dieu, je ne suis pas roi. C'est ainsi que ce jour-là, alors qu'il ramenait l'arche de l'Alliance dans la ville de Jérusalem, la Bible dit que David était en train de danser. Il a dansé au point que les habits ont lâché. Il a dansé. Et la Bible dit que sa femme, qui était fille du roi précédent, Saül, qui le regardait du haut de la fenêtre, la Bible dit, il a regardé, il la méprisa. Il dit, comment un roi peut se diminuer à ces points-là devant les servantes et de ses serviteurs? Il dit, les rois ne font pas ce que tu es en train de faire. Mais j'aime la réponse de David. David, il dit, ce n'est pas devant ces gens-là que j'ai dansé. C'est devant mon Dieu qui m'a choisi comme roi des préférences à ton père. Il dit, c'est ton père qui était roi. Mais Dieu, il a déclassé. C'est devant ces dieux qui m'a choisi et m'a établi roi des préférences à ton père. C'est devant lui que j'ai dansé. Mais pour finir, il dit, tu n'as rien vu jusque-là. Il dit, devant Dieu, je redescendrai encore plus bas. Il dit, ce que tu as vu, c'est rien. Devant Dieu, je descendrai encore plus bas. Néanmoins, devant les hommes, je serai toujours en honneur. Il reconnaît sa place et il dit, devant les hommes, je vais être en honneur, mais devant Dieu, je ne serai pas, je ne suis pas grand, je reste petit. Pourquoi? Parce que je reconnais qu'est-ce que je suis. Je le suis par la grâce de Dieu. Alors l'attitude d'action des grâces, cette attitude qui nous remet à notre place. C'est cette attitude qui remet Dieu à sa place. Parce que tu reconnaîtras toujours que c'est Dieu qui est en train de faire. Même si toi, tu as agi, mais c'est Dieu qui a fait. Même si tu as fait quelque chose, mais c'est Dieu qui a béni. Même si tu as étudié pour ces travaux, cet examen, mais c'est Dieu qui t'a donné la réussite. Quelqu'un a dit, on ne dort pas bien parce qu'on a un beau lit. On dort bien parce que Dieu nous a donné cette grâce de dormir. Tout ce que nous sommes, c'est Dieu. Et lorsque tu as cette attitude-là d'action des grâces, tu vas te ramener à ta place et tu vas remettre Dieu à sa place. Beaucoup de gens, ils ont pris la place de Dieu. Dieu t'élève un peu et tu penses que tu es devenu quelqu'un. Tu lui dis, mais Seigneur, serre un peu. Moi aussi, j'ai mon petit trône à côté. Les gens m'acclament là où je passe. Les gens me célèbrent là où je passe. Alors Dieu, on va conjuguer ensemble. Lorsque tu commences à penser à ça, la Bible dit que l'orgueil précède la chute. Lorsque tu commenceras à agir comme ça, on sait dire, je n'ai pas besoin d'être prophète pour dire qu'il y a une chute. Parce que la Bible dit, lorsque tu vois l'orgueil, sache qu'il y a une chute là-devant. Et l'humilité précède la gloire. Quand tu vois l'humilité, tu dis, là, tu es en train de descendre. Et David, il dit, tu n'as rien vu. Devant Dieu, j'irai encore plus bas. Mais devant les hommes, je resterai en honneur. Si tout ce que tu vis est grâce, alors ta vie doit être une vie d'action des grâces. L'action des grâces reconnaît que tout ce que tu as, c'est par la grâce de Dieu. Tout ce que tu peux, c'est par la grâce de Dieu. L'action des grâces reconnaît que tout ce que tu as, Dieu te l'a prêté. Ça ne t'appartient pas. Dieu te l'a prêté. Et en conclusion, qu'est-ce que je veux dire? Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, mais n'oubliez pas des actions des grâces. Comme pour dire, même quand vous avez des raisons de vous inquiéter, vous avez aussi des raisons de faire des actions des grâces devant Dieu. Si au même moment que tu fais des prières et des supplications, si au même moment que tu as appelé aussi à élever des actions des grâces, Paul qui le dit, lui-même, il est en prison à ce moment-là. Il attend son jugement. Et il dit, ne vous inquiétez de rien. Paul, tu ne t'inquiètes pas de ton sort. Tu ne sais même pas comment tu seras jugé. Tu es en prison. Mais tu me dis à moi qui suis dehors, ne t'inquiète pas. Il dit, ne t'inquiète de rien. Mais dans toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, tu as des problèmes, tu as des besoins. Fais-les connaître à Dieu. Et alors que tu le fais, fais élever aussi des louanges. Parce que Dieu est en train de faire. Et celui qui est en train de faire, il fera encore. Il fera encore. Il fera encore. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes dans la prière? De la grâce à l'action des grâces. On reconnaît sa grâce. On reconnaît ce qu'il a fait. On reconnaît que celui qui est à l'œuvre dans nos vies, malgré ce que nous traversons, malgré des moments de lamentation, malgré des moments de difficulté, on reconnaît que la grâce de Dieu est en train d'agir en notre faveur. Et notre réaction, c'est une vie d'action des grâces. Une vie qui reconnaît ce que Dieu peut faire, ce que Dieu est capable de faire. Une vie qui reconnaît ce que Dieu est en train de faire. Et notre prière, ma prière, que nous soyons une église des gens qui vivent une vie d'action des grâces.